Si je vous dis que Dieu a un rêve, c'est quoi son rêve? C'est nous. Dieu a un rêve et son rêve, c'est nous. C'est nous, c'est moi, c'est nous ensemble, chacun d'entre nous. Et ça va se concrétiser bientôt, hein? Ça va se réaliser pleinement. Dans Apocalypse, on lit, « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » Wow! Hein? On a droit à un wow, là? Wow! La mariée. Et la mariée, c'est qui? Hein? Son épouse. Et ça, c'est nous. Incroyable, hein? Le rêve de Dieu. Juste un peu avant, il disait, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » Qui sont les appelés au festin des noces de l'agneau? Combien de temps va durer le festin? On ne le sait pas. Mais on va avoir l'éternité pour célébrer le festin des noces de l'agneau. Et on va célébrer quoi? Qu'est-ce qu'on va célébrer? L'œuvre la plus incroyable, la plus grandiose, la plus remarquable dans le ciel, sur la terre. Quelle est cette œuvre-là? Pierre nous l'a décrite comme celle-ci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Quelle est cette œuvre-là qui est incroyable, qui est immense, qui est fantastique? C'est la grande miséricorde de Dieu envers l'humanité. Alors, peut-être c'est redondant, peut-être qu'on s'habitue à ça. On s'est habitué à la grâce de Dieu envers l'humanité. J'aimerais ça ce matin qu'on s'arrête, c'est le repas du Seigneur. Puis dit non, ce n'est pas quelque chose de banal. Hein? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, se souiller, se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. On a un héritage incroyable qui nous est réservé, qui nous attend dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut qui est là présentement, il va être révélé dans toute sa splendeur bientôt, lorsque l'épouse va apparaître, hein, va descendre du ciel. Alors, quelle est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait jamais faite? La miséricorde qu'il a eue envers l'humanité, envers les êtres humains. Ça, c'est la chose la plus incroyable. Vous en tressaillez d'allégresse. Il y a des synonymes, hein? Vous avez des frissons. Ça vous donne des frissons. La grâce, la miséricorde de Dieu nous donne des frissons. Elle nous fait vibrer, trépider. Tressaillez d'allégresse. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est Pierre qui écrit, là. Pierre l'avait vu, lui. Il l'avait vu de ses yeux. Il a passé 3 ans avec. Puis il écrit aux chrétiens, puis il dit, « Vous autres, vous ne l'avez pas vu. » Et vous l'aimez sans l'avoir vu. Incroyable. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Incroyable. Et vous tressaillez d'une allégresse indicible. Qu'est-ce que ça veut dire, indicible? Inexprimable, indescriptible, ineffable, inénarrable, hein? La langue française est riche. Plein de mots qu'on comprend même pas. Hein? et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Encore une fois, Pierre, il n'en revient pas. Il n'en revient pas de cette grâce-là que Dieu, le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. C'est quelque chose qui le dépasse complètement. Et c'est pas fini. Il ajoute, il dit que les prophètes avaient annoncé cette œuvre extraordinaire-là. Ils ont fait des recherches, puis ils se sont aperçus que c'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils avaient été les ministres de ces choses-là. Et les anges désirent y plonger leur regard. Les anges sont dans l'admiration, sont dans l'étonnement. Ils regardent ce que Dieu fait pour l'être humain, ce que Dieu est en train d'accomplir, ce que Dieu va accomplir, et puis ils s'arrachent les cheveux s'ils en ont. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable la miséricorde que Dieu a eue envers l'être humain, même les anges, ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. Il y a un philosophe chrétien, début du 19e siècle, Søren Kierkegaard. Je pense que c'est un Danois, hein? Pas loin de la Suède, là. Pas loin de Gunnar. Et il a donné comme une parabole vraiment spéciale. Il dit, imaginez, là, vous avez un roi qui est extrêmement puissant, tout puissant. Il a tous les pouvoirs, il a toute l'autorité absolue, le pouvoir suprême sur tout ce qui se passe dans son royaume. Et il n'y a personne qui veut lui déplaire, il n'y a personne qui ose lui dire non, il n'y a personne qui ose le contredire, il n'y a personne qui ose refuser quoi que ce soit. Et ce roi tout puissant-là, il est tombé en amour avec une humble servante dans un coin perdu dans son royaume. Et là, le roi, il a un dilemme. Il pouvait, il avait tous les pouvoirs, il avait toutes les capacités d'aller chercher la Cendrillon, hein, la tirer de sa misère, l'amener dans son palais, la revêtir de tous les habits somptueux, avec le diadème royal, et puis il avait le pouvoir de la couronner, de la couvrir de toutes sortes de richesses, de la couvrir. Il avait ce pouvoir-là, et elle allait sûrement pas dire non, soit qu'elle n'oserait pas dire non, soit qu'elle pourrait pas résister à autant de richesses, autant de gloire. Qui est-ce qui voudrait dire non à un changement d'état comme celui-là, un changement de condition comme celui-là? Mais le problème, c'est quoi? C'est quoi la question? Est-ce qu'elle va m'aimer? Hein? Sa question, c'est, je peux la couvrir de richesses, mais est-ce qu'elle va m'aimer vraiment? Est-ce qu'elle va m'aimer parce qu'elle est obligée? Ou elle va m'aimer pour mon argent? Hein? Est-ce qu'elle va m'aimer pour tous les bienfaits qu'elle va recevoir en devenant ma femme ou mon épouse? Hein? Est-ce qu'elle va m'aimer pour moi-même? Alors oui, il pourrait, un sceau royal, l'obliger, tu vas devenir ma femme. Hein? Elle pourrait être à ses côtés. Et puis, mais est-ce qu'elle va le faire parce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle va le faire parce qu'elle est obligée? Est-ce qu'elle va être vraiment heureuse avec moi? Et est-ce que je vais pouvoir le savoir un jour? Est-ce que je vais pouvoir savoir la vérité un jour? Quand même vraiment pour ce que je suis, et non pas tout ce que je donne, tout ce que je lui rapporte. Oui, je peux arriver avec mon carrosse royal, mon escorte, mon armée, avec toutes les bannières, les insignes, les trompettes, les fusils. Oui, je peux l'impressionner, oui, je peux la subjuguer, hein? Mais lui, qu'est-ce qu'il voulait? Bon, c'est ce qu'il voulait. Il voulait un amour sincère. Un amour, on pourrait dire, d'égal à égal. Un amour qui est partagé, un amour qui est réciproque. Et là, il y avait un abîme entre la peur et l'amour. n'est-ce pas? Il y a un abîme entre la peur et l'amour. Et qu'est-ce qui bannit la peur? L'amour parfait bannit la peur. Si j'ai peur de Dieu, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas être rempli de peur et aimer Dieu. Comment est-ce que le roi tout-puissant a fait pour gagner le cœur de sa Dulcinée? Enlever cette peur-là de lui, qu'elle soit libre de l'aimer sans qu'il soit forcé, sans qu'elle soit forcée, sans lui imposer son amour, qu'elle l'aime de tout son cœur. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a renoncé à son trône. Il a quitté son trône, ses richesses, son palais, toute sa puissance. Il a mis ça de côté. Puis il est devenu, il s'est fait un humble serviteur comme elle, afin de gagner son cœur. Pas un déguisement. Il n'a pas fait semblant, c'est pas du fake. Il est vraiment, réellement devenu un simple serviteur. Il a tout quitté par amour pour sa Dulcinée. C'était vraiment son état, c'était vraiment sa nouvelle condition. Il a quitté son trône. Est-ce que ça nous rappelle quelqu'un? Hein? Ça rappelle quelqu'un? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Dieu, le Créateur de l'univers, qui habitait dans un palais inimaginable, a pris la condition humaine. Il est devenu un homme. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on l'aime forcé, qu'on l'aime de force. Il voulait qu'on comprenne l'amour qu'il a eu pour nous et qu'on réponde à cet amour-là. Un vrai conte de fées? Hein? Si je vous disais que ça n'a rien à voir avec la réalité, ces contes de fées-là, que Jésus, que Dieu a fait quelque chose d'encore bien plus étonnant, bien plus renversant que l'histoire de Cendrillon ou la Belle au bois dormant. Parce que voyez-vous, la princesse, là, était loin d'être aimable. Elle était tout, excepté être aimable. Elle était haïssable. Elle était détestable. Elle était méchante, rebelle, impure. Elle était pas humble du tout. Elle était orgueilleuse, elle était envieuse, elle était égocentrique, égoïste. C'était de la M. Et le mot est faible. On est loin de du conte de fées, là. Ce que Dieu a fait, quelque chose de remarquable. Peut-être vous dites, oh, Michel, l'humanité est pas si pire que ça, hein? L'être humain, c'est pas de la... Hein? Ta vision du monde est ben trop négative, est ben trop sombre. Juste deux petits textes, puis on va en avoir assez, je pense, qui décrit ce que nous étions. Hein? Ce que nous étions. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, étant haïssables et nous haïssant les uns les autres. Et là, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que nous étions. C'est ce que l'humanité est devant Dieu. Éphésiens, l'autre texte, pour vous, vous étiez morts, séparés de Dieu par vos fautes, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions des fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On en a-t-il assez? Et je mets cela, c'est juste pour se rappeler la grâce immense, infinie que Dieu a eue envers nous. Juste se rappeler ça. Que Dieu n'a pas vu Michel, là, puis waouh, il a dit, et que ça ferait un bon pasteur, hein? Je veux l'avoir comme enfant de Dieu, ce gars-là, il est trop fin, hein? C'est pas ça qui s'est passé. Il a regardé, puis il a dit, yark. Parce que, voyez-vous, pour Dieu, là, un petit péché, là, c'est immense. C'est lui qui dit à son frère stupide, a fait un petit péché de rien du tout qui vaut, hein? Non. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors, pour Dieu, le mal, c'est le mal, puis le péché, c'est le péché. Et c'est grave. C'est quelque chose inacceptable. Alors, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu devrait nous faire tressaillir de joie, d'allégresse. Parce qu'il a aimé l'être humain dans sa débauche, il a aimé l'être humain dans sa dépravation totale. C'est ce que nous étions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on devienne une belle mariée? Hein? Pure, habillée de fin lin pur. Qu'est-ce qui est arrivé avec la méchante, la détestable, la haïssable? L'impie, l'impure, la rebelle. Lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien, qu'un soldat donne sa vie pour son pays, hein? Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de mourir. Mais le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore du caca. Hein? N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on devienne belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est racheté, hein? L'humanité, on est devenu humaniste, puis là, on fait du bien, hein? On est en train de se racheter. C'est quoi qui s'est passé? Un miracle, rien de moins qu'une métamorphose, la chenille, hein, terrestre qui marchait sur le sol a été transformée en papillon, et ça c'est un miracle qui vient de Dieu, et on devrait tressaillir d'allégresse parce que ça nous est arrivé. Le ver de terre a été transformé en papillon. C'est un acte, une intervention de Dieu, incroyable, inimaginable. Les anges n'en reviennent pas, puis les anges n'en reviendront pas, puis ils vont avoir l'éternité pour s'en remettre. Ce que Dieu a fait pour l'être humain, c'est inimaginable. C'est incroyable. Qu'est-ce que Dieu a opéré? On l'a lu dans tout titre. Nous étions autrefois, pas besoin de le refaire, hein? C'est assez. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération, le lavement de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Ça, c'est le miracle que Dieu a accompli. Le bain de la régénération. Dieu nous a régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire, régénérer? Booster? Ah non, ouais, si ta batterie est morte. La batterie est morte, puis tu reçois la vie. Hein? C'est exactement ça. Régénérer, ça veut dire quoi? Hein? Oui. Oui, on est nouveau. Il a fait une nouvelle créature. Est-ce qu'on pouvait se régénérer soi-même? Non? Est-ce qu'on pouvait naître, vous savez, la semaine prochaine, on va voir Nicodème. Qu'est-ce qui est arrivé à Nicodème? Hein? Le Seigneur lui a dit, Nicodème, il faut naître de nouveau si on veut voir le royaume de Dieu. Et la question qu'on se pose ce matin, ça, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle naissance? C'est rien de moins que le miracle de Dieu qui arrache le vieux cœur pourri, hein, cette pourriture-là, qui paye pour chacune de ses manquements, de ses erreurs, de ses péchés, et qui transplante un nouveau cœur dans l'être humain. Et un cœur qui n'est pas obligé de l'aimer, qui ne va pas l'aimer de force, mais un cœur qui est capable de répondre à l'amour de Dieu parce qu'il va avoir connu l'amour de Dieu. Ça, c'est le miracle de la régénération. C'est le miracle que Dieu a accompli envers son épouse. Il a enlevé le vieux cœur, il en a donné un nouveau. Hein? Rien de moins qu'un miracle que Dieu a fait. Dans l'Ancien Testament, hein, David, c'est David qui crie. Quand est-ce qu'il a crié ça? Psaume 51? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Quand est-ce qu'il a écrit, le psaume 51? Avec Bathsheba contre, tu cherches le nom toi aussi, hein, Uri. Oui. Tout un psaume, là. Ça décrit sa détresse, comment il a compris l'état de son cœur, qui était loin d'avoir, hein, lui qui a été choisi par Dieu, qui avait tous les pouvoirs, puis comment il a tombé, et comment que le cri de son cœur après ça, hein, dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que là, je suis pas dans cet état-là pantoute. » Hein? Et il a reçu, si on lit le psaume, là, il a reçu vraiment le pardon de Dieu. Et il a reçu ce cœur pur parce qu'Ézéchiel, un peu plus tard, a prophétisé ce qu'on disait tantôt. « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre. » On pourrait traduire, « J'enlèverai votre cœur dur, insensible comme de la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est réceptif, afin qu'ils suivent mes prescriptions de bon cœur, de tout leur cœur, qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances avec joie. » Hein? Psaume 119. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je vais leur donner un nouveau cœur. Il n'a pas dit que le chrétien a deux cœurs, là, un mauvais et un bon, puis ils se battent l'un contre l'autre. Pas ça du tout. Il dit, je vais enlever ce cœur pourri et je vais en mettre un nouveau qui va faire que vous allez aimer Dieu. Ça, c'est le miracle de la régénération. J'ai reçu une nouvelle vie. Mon frère, ma sœur, t'as reçu un nouveau cœur. Puis si tu grattes assez, là, qu'est-ce que tu vas trouver? Un cœur pourri, un cœur qui aime pas Dieu, un cœur qui... Non. Si tu grattes assez, là, tu vas trouver un cœur qui est saint, qui aime la sainteté, un cœur qui aime le Seigneur de tout son cœur, un cœur qui veut suivre le Seigneur. Ça, ça a été planté dans tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont ce cœur-là. Il y avait un jeune homme qui avait pratiqué l'homosexualité. Jeune chrétien qui vient au Seigneur. On est dans un camp. Et puis, je le rencontre, puis il me parle de son combat. Il était prêt de lâcher le Seigneur parce que il se tapait dessus, il était découragé, il était... Comment ça se fait que je suis chrétien et que j'ai encore des désirs homosexuels? Et ça le torturait parce que être homosexuel dans une église, c'était facilement jugé, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai juste dit, c'est tout ça que tu veux, en parlant de ses désirs homosexuels. Et là, il a dit non! Et en disant non, là, on dirait que le vieux cœur est parti. Mais j'ai dit, ça, c'est le vrai, ton vrai cœur. Ton vrai cœur, c'est pas ça qu'il veut. Alors ça, c'est la preuve que tu as été régénéré, que tu as un nouveau cœur, puis ce nouveau cœur-là, il veut suivre le Seigneur, même s'il n'est pas capable. Hein? Quelques années plus tard, un an ou deux ans plus tard, ça frappe à ma porte. J'ouvre la porte. Il me reconnaît-tu? Ah oui, 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 je me souviens. Il dit, je viens te présenter ma femme. Il dit, ce que tu m'as dit à ce moment-là, ça a changé complètement ma vie. J'ai compris que ces désirs-là, ces tentations-là, c'était pas moi. Que j'avais un nouveau cœur, puis ce nouveau cœur-là, il aime le Seigneur, puis il aime les commandements du Seigneur, il aime les ordonnances du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, peux-tu s'encourager ce matin? Puis dire, je suis un enfant de Dieu, j'ai été régénéré, j'ai été engendré de nouveau, j'ai reçu un cœur qui aime la sainteté, qui aime la pureté, qui aime obéir au Seigneur et qui aime le Seigneur pour ce qu'il est et pas juste pour je m'en vais au ciel. Hein? Et le ciel, ça va être quoi? Ça va être l'être humain qui va être élevé, qui va participer à la vie divine. Avant, il était trois. Maintenant, j'ose pas dire qu'on est quatre. Je veux pas... Mais on va participer. Hein? Il nous a rendu participants de la nature divine. On ne sera pas Dieu. Mais on va vivre la vie de Dieu dans une intimité incroyable pour l'éternité. Il n'y a pas de wow? Wow! Grâce à quoi? L'œuvre de la régénération. Nous avons été régénérés. Et juste pour se rafraîchir la mémoire, j'aimerais ça qu'on va faire un petit exercice. Vous avez le droit à une réponse seulement, chacun. OK? Alors, ce sont des synonymes de l'œuvre de régénération de Dieu. Hein? Ça, c'était quoi, ça? OK, je vais leur donner... Alors, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Une personne. Hey! OK. C'est une pratique. OK. Bien, tout le monde ensemble dehors. À ceux qui croient en son nom et qui sont? Non. Nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Hein? Il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est pas rien, là. Hein? Des enfants de Dieu. Wow! Enfants de qui? De Dieu. C'est pas n'importe quoi, là. Nous sommes nés de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'on ait cette vie-là et pas juste en durée éternelle, et en qualité. Hein? Une qualité de vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Crois-tu ça? Celui qui croit au Fils, celui qui ne se confie pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est ressuscité à l'intérieur. D'accord? La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La régénération, c'est renaissance à la vie spirituelle. Hein? On est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. On est passé d'une vie sans Dieu à une vie en communion avec Dieu. Il y en a d'autres. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a... Wow! Tard. un point. Il nous a quoi? Régénéré. Pas de voir? Régénéré. Hein? Il a changé ton cœur. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous qui? Avez été régénéré, non par une semence corruptible, par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque la parole de Dieu a tombé dans mon cœur, ça a fait « wow ». Hein? Ça a changé le cœur. Il nous... C'est redondant, là. Il nous a engendrés. Hein? Selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alors, la semence de Dieu a été plantée dans mon cœur, ça a donné un nouveau cœur, une nouvelle personne. Encore quelque chose, on en a vu ça encore? Oui? OK. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous... Un petit peu plus loin. Avant. Il nous a rendus à la vie. Hein? C'est quelque chose qui est déjà accompli. Par grâce que vous êtes sauvés. Puis là, c'est ce que Benoît a dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités. On est déjà ressuscités. La moitié est faite. Hein? L'esprit, notre cœur a été transformé et bientôt, le corps va suivre. Mais ça, c'est déjà fait. On est assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Car nous sommes son ouvrage, nous. Créer, là. Hein? Adam et Ève ont été créés. Le chrétien a été créé. Un miracle. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, c'est-à-dire à vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et... Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Revêtir la nature nouvelle... Créé selon Dieu. Ce nouveau cœur-là, il a besoin de battre. Il a besoin d'être libéré. Il a besoin d'être dégagé. Et lorsqu'il l'est, il va se mettre à aimer Dieu et à vivre pour Dieu. Dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Et on finit avec, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. C'est pas la pratique de la loi, même le mieux intentionné, on va voir ça Nicodème la semaine prochaine, mais ça prend un nouveau cœur. Faut être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, celle-là, par exemple. Hein? Les choses anciennes sont, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour le repas du Seigneur? Avec cette compréhension-là de la joie ineffable, la joie qu'on peut pas décrire. J'ai essayé de le faire ce matin, mais on a juste égratigné un petit peu la surface de l'œuvre que Dieu a accomplie envers nous. Alors, juste prendre un petit temps, chacun pour soi, de prendre conscience, vraiment réaliser l'œuvre extraordinaire que Dieu a fait dans ma vie. J'étais un pourri, j'étais cette créature-là qui méritait d'être séparée de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, est venu changer le cœur. Merci, Seigneur, pour ta régénération.